Chapitre 32. Richard s'accrocha au bord de l'ouverture à peu près ronde et tira sur ses bras pour s'en extraire. Lorsqu'ils avaient découvert ce passage obscur qui s'enfonçait dans la terre, le sourcier avait décidé de l'explorer seul. Quand il en fut sorti, il se frotta les mains pour les débarrasser de la poussière, puis se tourna vers ses compagnons. « On peut traverser. Ce n'est pas facile, mais ça débouche à l'air libre. » Tom ne cacha pas son scepticisme et Owen parut consterné. Les oreilles pendant tristement, l'équivalent d'une moue dubitative chez une chèvre, Betty sonda les trois passages et lâcha un bêlement pathétique.
« Mais j'ai peur que ce soit impossible, »
gémit Owen.
« Et si nous... »«
Si nous étions coincés ?» acheva Richard à sa place.
« C'est ça, oui. »
« Eh bien, avec tes épaules étroites, tu as un gros avantage sur Tom et sur moi. » Richard ramassa son paquetage qu'il avait laissé au pied d'un rocher. « Si j'ai réussi un aller-retour, tu le feras aussi, c'est certain. » Owen désigna une montée abrupte sur sa droite.
« Pourquoi ne passons-nous pas par là ?»«
Je déteste m'aventurer dans des trous à rats, » admit Richard. « Mais le chemin que tu sembles préférer longe un à-pic vertigineux, et avec la pluie, la roche doit être glissante. » Si c'était la seule possibilité, je prendrais le risque. Là, pas question. D'autant moins que les coureurs n'auraient aucun mal à nous repérer. Imagine qu'ils nous attaquent pendant que nous serons sur ta corniche, chérie. Je déteste les souterrains, c'est vrai, mais une chute de plusieurs milliers de pieds me tente encore moins. Si tu préfères mourir comme ça, libre à toi. Pendant que les coureurs dévoreront ton cadavre, ils nous ficheront la paix. » Owen se plia en deux pour sonder à son tour le passage.
« Évidemment, si vous présentez les choses comme ça, »
marmonna-t-il.
« Richard, »
dit Callan pendant que les autres enlevaient leur sac à dos, qu'ils tiendraient contre leur poitrine.
« Si c'était jadis un chemin comme tu le penses, pourquoi n'y a-t-il pas un passage moins difficile ?»«
Selon moi, c'est à cause d'un glissement de terrain qui remonte à 1000 ou 2000 ans. Regarde vers le haut. L'endroit où nous sommes s'est détaché de cette dépression dans la paroi. » Avant, une route passait ici, mais elle a été enterrée sous un gros pan de roche.
Et il n'y a pas d'autre choix que passer dessous ou longer la corniche?
Ai-je jamais dit ça? Au contraire, je suis sûr qu'il existe d'autres chemins. Mais nous devrions retourner sur nos pas et marcher une journée entière pour rejoindre la dernière bifurcation que j'ai remarquée. Et rien ne garantit que ce soit la bonne. Mais si tu y tiens, nous pouvons essayer.
L'inquisitrice secoua la tête.
« Nous ne devons plus perdre de temps, il faut trouver cet antidote. »
Richard souscrivait à ce programme. N'était qu'il ne voyait pas comment il pourrait libérer un empire du joug de l'ordre impérial. Cela dit, il avait quelques idées. Seul l'antidote comptait pour lui, et il n'avait aucune raison de jouer selon les règles d'Owen ou de l'ordre impérial.
Callan sonda de nouveau le passage obscur.
« Tu es certain qu'il n'y a pas de serpent là-dedans ? »
demanda-t-elle.
« Autant qu'on peut l'être, oui. »
Tom approcha et tendit son épée à Richard.
« Je passerai le dernier, » dit-il. « Si vous avez réussi, seigneur, je réussirai aussi. »
Richard enfila le baudrier et orienta le fourreau sur sa hanche pour qu'il se plaque autant que possible à sa jambe. Son sac à dos serré contre la poitrine, il s'accroupit pour s'introduire dans le passage. Au début, la voûte était inclinée de telle façon qu'on ne pouvait pas se tenir debout. De plus, à cause d'une saillie rocheuse, il fallait se contorsionner et rentrer le ventre pour passer. Ce premier obstacle franchi, Richard s'enfonça dans les ténèbres. Dès que les autres lui eurent emboîté le pas, occultant la lumière du soleil, l'obscurité s'épaissit encore. Contrairement au jour précédent, il ne pleuvait plus, mais le trop-plein des ruisseaux et des torrents continuait de dévaler anarchiquement le flanc de la montagne. Dans le passage, Richard et ses compagnons avaient de l'eau jusqu'aux chevilles et leurs pas produisaient un curieux bruit de ventouses ponctué de clapotis plus discrets. L'obscurité ajoutait encore à la difficulté de l'aventure, mais à cause des averses, ils n'avaient rien trouvé qui pût leur permettre de fabriquer des torches. Une grotte humide, sombre et truffée d'endroits où se cacher. « S'il avait été un serpent, » pensa soudain Richard, « il aurait volontiers élu domicile dans un endroit pareil. Et si Callan, qui avait horreur des reptiles, en croisait un pendant cette aventure, son mari risquait d'en entendre parler jusqu'à la fin de ses jours. Quand on redoutait déjà quelque chose en plein air, La menace s'accentuait lorsqu'on se trouvait dans un lieu clos, obscur et exigu. À ces moments-là, la panique n'était jamais bien loin. Y voyant de moins en moins, Richard posa une main contre la paroi et se guida au toucher. Par endroits, tant d'eau suintait de la roche que celle-ci en devenait gluante. Au bout d'un moment, l'eau sur le sol fut remplacée par une boue, encore moins agréable, une sorte de limon collant qui empestait la moisissure. À l'odeur, il semblait évident qu'un assez gros animal était mort dans la grotte où son cadavre finissait de pourrir. Lorsque la puanteur atteignit leurs narines, les compagnons de Richard grognèrent de dégoût et Betty bêla d'indignation. D'une voix étouffée, Jensen ordonna à la chèvre de se calmer. Très vite, le sourcier et tous les autres oublièrent les désagréments olfactifs, car avancer sous l'immense bloc de roche qui recouvrait l'ancienne route avait de quoi effrayer n'importe qui. Il ne s'agissait pas d'une grotte classique, comme Richard en avait exploré des dizaines dans sa jeunesse, mais d'une sorte de fissure qui courait dans les entrailles d'un gigantesque rocher. Ici, on ne traversait pas de salles souterraines et on ne rencontrait presque jamais de bifurcation. Toute l'affaire consistant à suivre un unique chemin, le manque de lumière devenait beaucoup moins gênant. De plus, la traversée ne durait pas très longtemps en réalité, mais dans le noir, tout semblait se dérouler au ralenti. Richard atteignit le point où le sol montait soudain très abruptement, une muraille verticale plus qu'une véritable pente. Cherchant des prises à tâtons, il commença la pénible ascension. À certains endroits, la cheminée naturelle était si étroite qu'il pouvait appuyer son dos contre la paroi et utiliser ses pieds pour se hisser. Bien entendu, il se servait aussi de ses bras quand il trouvait des prises, mais elles étaient assez rares dans cette section du passage. Le sourcier atteignit bientôt une autre partie horizontale du tunnel. Suite au glissement de terrain, l'énorme bloc de roche qui s'était détaché du versant reposait de biais sur l'ancienne route qu'il avait recouverte. Après une descente et une remontée, Richard et ses compagnons allaient progresser en droite ligne sur un sol plan. Mais des milliers de tonnes de roches les surplomberaient et le goulot qui conduisait à l'air libre devenait de plus en plus bas de voûte. Richard se retourna et tendit une main à Callan pour l'aider à s'extraire de la cheminée. Derrière l'inquisitrice, les autres n'en avaient pas encore fini avec la pénible ascension. Un pâle ray de lumière devant lui confirma au sourcier qu'il n'était plus très loin de la sortie. Mais ils allaient aborder la partie la plus délicate de ce parcours du combattant, et ils se demandaient comment réagiraient ses compagnons. Pour être franc, ils n'étaient pas fous de ce genre d'exercice, mais il n'y avait pas d'autre solution, et au fond, garder le pire pour la fin n'était pas si mal que ça. « À partir d'ici, » dit-il à Callan, « nous allons devoir ramper. Accroche-toi à ma cheville, que tous les autres fassent de même avec la personne qui les précède. » L'inquisitrice regarda la chiche lumière dans le lointain.
« Richard, » souffla-t-elle, « c'est très étroit. On dirait qu'il s'agit d'une fissure.
On peut passer, je t'assure. Avec ta main libre, pousse ton pactage devant toi et tu réussiras sans difficulté. »«
J'espère bien, »
soupira Callan.
« Plus vite nous serons dehors et mieux nous nous sentirons. »«
Écoutez tous, »
lança Richard,
« nous sommes presque au bout de nos peines. »«
S'il faut encore supporter la puanteur d'un cadavre d'animal, » dit Jensen, « tu auras intérêt à numéroter tes abattis à la sortie. »
Tout le monde rit de cette saillie.
« Plus de charogne, » promit Richard, « mais un dernier passage délicat nous attend. Je l'ai franchi, donc je sais que c'est possible. » À condition de m'obéir au doigt et à l'œil, bien entendu. Vous allez devoir ramper sur le ventre et pousser vos sacs devant vous. Accrochez-vous à la cheville de la personne qui vous précède. Il y a une ou deux intersections et je ne voudrais pas que vous vous perdiez. Vous verrez de la lumière devant vous, mais il ne faut surtout pas la prendre pour point de repère. Ce n'est pas la sortie. Le passage devient beaucoup trop étroit et vous risqueriez d'être coincé. Nous devons contourner cet endroit en empruntant un corridor latéral, sur la droite. Il y fait plus noir que par une nuit sans lune, mais la voûte n'est pas très basse. Ensuite, on arrive très vite à la véritable sortie. Tout le monde m'a bien compris ?«
Richard, » gémit Jensen au bord de la panique, « je déteste être enfermé comme ça, je veux sortir. »«
Tu crois que j'apprécie les trois rats ?» répondit Richard. « Mais j'ai réussi à passer, ne l'oublie pas. J'ai même fait un aller-retour. Suis-moi et tu n'auras aucun problème. »«
Je veux retourner en arrière. »
s'entêta Jensen. Richard ne pouvait pas accepter ça.
Les corniches étaient trop dangereuses, surtout si les coureurs en profitaient pour attaquer. « Passe devant moi, » dit Callan à Jensen. « Si c'est toi qui t'accroches à la cheville de Richard, tu seras sorti avant tout le monde. »«
Je m'assurerai que Betty te suive, »
proposa Tom. Cet argument sembla décider Jensen, qui rampa sur les coudes, son paquetage devant elle pour passer devant les autres. Quand elle put mesurer l'étroitesse du passage grâce à la faible lumière, la jeune femme commença de trembler de tous ses membres. Richard vit luire des larmes dans les yeux de sa sœur.
« Par pitié, je meurs de peur, je ne veux pas être coincé là-dessous. »«
Je te comprends, mais la sortie n'est pas loin. Et je ne t'abandonnerai pas, ne crains rien. Tu sortiras, c'est juré, je t'en donne ma parole. »«
Comment puis-je savoir que tu ne mens pas ?»«
Les sorciers tiennent toujours leurs promesses. »«
Je croyais que tu n'étais pas très doué pour la sorcellerie. »
« C'est vrai, mais j'ai un don particulier pour tenir parole. »
Richard se retourna, prit la main de Jensen et l'attira un peu plus vers lui. Quand elle fut totalement sortie du conduit vertical et comprit qu'elle devrait vraiment avancer à plat ventre, des claquements de dents vinrent s'ajouter à ses tremblements.
« Je sais ce que tu éprouves, » dit Richard. « Je déteste ça aussi, crois-moi. Mais nous n'avons pas le choix, et ce n'est pas dangereux si tu me suis jusqu'à la sortie. »
« Nous reverrons le jour avant que tu aies eu le temps de t'en apercevoir. »«
Et si ça s'écroule sur nous? Si ça nous écrase ou si ça nous coince juste assez pour que nous ne puissions pas bouger ?»«
Il n'y a aucun danger, » dit Richard. « Le glissement de terrain remonte à des millénaires. Tu n'as rien à craindre. »
Jensen hocha la tête, mais Richard n'aurait pas juré qu'elle l'avait entendu. Et dès qu'elle se détourna d'elle, la jeune femme commença à gémir.
« Accroche-toi à ma cheville !» « Et pousse ton sac jusqu'à moi, je m'en chargerai. Il te suffira de me suivre sans penser à rien. »«
Et si je ne peux plus respirer, coincé entre la voûte et le sol ? Richard, si je ne peux plus respirer ?»«
Je suis bien plus large que toi et je n'ai eu aucun problème. »
Jensen hocha de nouveau la tête. Richard tendit une main derrière lui et répéta qu'elle devait lui confier son sac. Quand ce fut fait, il l'attacha au sien pour se faciliter la tâche.
Jensen s'accrocha à la cheville du sorcier comme si c'était la seule chose capable de l'empêcher de tomber dans les bras du gardien. Bien qu'elle lui fît mal, le sorcier ne se plaignit pas. Un jour, coincé dans un tunnel semblable à celui-ci, lui aussi avait été pris de panique. Poussant les sacs, il commença de ramper en tentant d'oublier la voûte de pierre que son crâne frôlait par moments. Avant la délivrance, alors que le sol remontait légèrement, le passage deviendrait encore plus étroit. Avancer en droite ligne vers la lumière semblait si séduisant. La liberté paraissait toute proche, mais ce n'était qu'un leurre. Avant cette ouverture-là, le passage devenait beaucoup trop étroit. Se forcer à remonter dans l'obscurité paraissait absurde. Pourtant, c'était la seule voie vers le salut. Un curieux paradoxe qui rappelait à Richard plusieurs épisodes importants de sa vie. Le sorcier atteignit l'endroit où il fallait contourner une zone très basse afin de s'engager dans le passage ascendant. Le chemin illusoire, lui, allait tout droit. Parfois, l'option la plus simple n'était tout simplement pas la meilleure. Richard rentra le ventre, le dos pressé contre la roche. Ce passage n'était pas très long, peut-être 7 ou 8 pieds, mais quand on comprimait son torse à ce point, le souffle volontairement coupé, chaque seconde prenait des allures d'éternité. Poussant toujours les sacs, le sorcier se contorsionna comme un ver et se propulsa avec le bout de ses bottes pour continuer à avancer. Malgré tout ce qu'il savait sur la configuration du passage, il dut se contraindre à se détourner de la lumière pour s'enfoncer dans l'obscurité. La main de Jensen était toujours refermée sur sa cheville comme un étau. Une bonne chose puisque cela l'aidait à l'attirer vers lui et sa sœur capitale à l'endroit où il fallait bloquer sa respiration. Hélas, Jensen lâcha sa bouée de sauvetage au moment où elle en aurait eu le plus besoin.